15 septembre 1979, CJMF FM entre en onde. Plusieurs styles de radio se sont succédés, plusieurs personnalités. Une chose demeure inchangée, vous, FM 93, 40 ans de radio au cœur de Québec. FM 93 fait parler Québec depuis 40 ans. FM 93. La radio du sport à Québec. Entrevues, analyses, faits marquants. Le monde du sport passé en revue. Voici l'avant-match avec Dan Pou.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'avant-match, émission numéro 2119. C'est rare que je donne la date, mais aujourd'hui nous sommes vendredi le 6 septembre et c'est l'anniversaire du collègue Will. Donc, le jeune Will qui fête ses 27 ans aujourd'hui, et d'après moi, il rattrapera pas le vieux Dan, mais Will qui me donne un gros coup de main pour l'émission depuis quelques années déjà, ben c'est son anniversaire aujourd'hui. Je voulais quand même le souligner en onde. À quelle heure vous êtes couché hier? 9h, 10h, 11h, minuit, minuit et demi. Est-ce que vous avez regardé le tennis jusqu'à la fin? On va en parler dans quelques instants avec une spécialiste, mais moi, je veux juste vous dire que, vu mon nouvel horaire avec la gang à Sylvain, mon cadran était à l'horaire pour 4h10 ce matin. Et là, à 10h30, 11h moins quart, ben, je me disais, ça pourrait être l'heure. Hein? Et là, c'était 5-2 pour Belinda Bencic dans la deuxième manche. Andreescu avait gagné la première manche 7-6, puis là, je me disais, oh non, il n'y aura pas une troisième manche. Finalement, Andreescu, qui tirait de l'arrière 5-2, a gagné 7-5. Et je me suis rendu jusqu'au bout. J'ai regardé ça jusqu'à 23h10. C'est du bonbon. C'est la nouvelle coqueluche, évidemment, du tennis canadien, Bianca Andreescu, qui va jouer en finale demain, 16h, contre Serena Williams. On va en reparler dans quelques instants. Je veux vous dire qu'il y a des camps d'entraînement de recrues. J'ai eu mon Hockey News ce matin. Et les partisans du Canadien, j'ai un petit message pour vous. Le Hockey News ne voit pas votre équipe préférée en série. C'est pas moi qui le dis. Là, dites pas, bah, Dan, on sait bien, toi, t'aimes pas le Canadien. Non! En fait, c'est pas vrai que j'aime pas le Canadien. Je suis le plus grand surveillant des journalistes de Montréal qui ambitionnent sur la cause du Canadien en pensant qu'il y a juste cette équipe-là qui est bonne dans la Ligue nationale. Mais le Canadien comme tel, ben, je l'ai pas pantoute, sauf que l'Hockey News les voit pas en série. Eux disent que c'est le Lightning qui va gagner la prochaine Coupe Stanley en grande finale contre les Golden Knights de Las Vegas en 6 matchs. On se souviendra que le Lightning avait lamentablement échoué au printemps dernier en s'inclinant en 4 matchs contre les Blue Jackets de Columbus. Il y a des tournois de recrues aux quatre coins de la Ligue actuellement et je veux saluer mon voisin Louis Crevier qui est un défenseur des Saguenay-Chicoutimi qui a été invité à participer au camp des recrues du Lightning de Tampa Bay. J'ai croisé sa mère hier. Toute sa famille va le rejoindre à Nashville. Ça se passe à Nashville. Donc, les espoirs des Prédateurs, les espoirs du Lightning et les espoirs de deux autres formations. Le Canadien aussi aura son tournoi de recrues. Les vrais camps d'entraînement débutent la semaine prochaine. Mais pour les recrues, c'est en fin de semaine que ça va se passer. Sachez également que l'Océanique de Rimouski va finalement retirer le chandail numéro 87 de Sidney Crosby. C'est pas qu'ils ont hésité, c'est juste que là, ils se sont dit, OK, on a trouvé une date. Ça va être vendredi, le 27 septembre prochain. C'est une très bonne organisation, l'Océanique, mais disons que ce dossier-là a un peu traîné en longueur. Et dans la NFL, ben, on a lancé la saison hier, mais on l'a pas lancé avec un grand match. Hein. Victoire de 10-3 des Packers sur les Bears. Pour les deux finalistes au dernier Super Bowl, les Rams, ils sont en Caroline dimanche 13h et les Pats dimanche pour le Sunday Night 20h20 vont recevoir les Steelers de Pittsburgh.
Au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Il y a un seul nom à la grandeur du Canada qui va faire résonner dans les discussions d'amateurs de sport, et c'est celui de Bianca Andreescu, qui va jouer demain 16h sur le central à Flushing Meadow, la finale du US Open contre Serena Williams. On va essayer de décortiquer cette ascension fulgurante avec une fille qui s'y connaît beaucoup, c'est Stephanie Miles, qu'on joue à l'instant. Elle est rédactrice en chef pour tennis.life. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Comment ça va?
Oh, écoute, ça va bien. Hein? Le tennis canadien qui est dans la mire de tout le monde, je trouve ça, comme joueuse de tennis, pas mal de fun.
Absolument. Vous êtes à New York, vous assistez au match de Bianca Andreescu. On a échangé des messages textes hier pendant le match. Dans quelle mesure, vous, qui êtes une spécialiste, vous êtes surprise de voir Bianca en finale?
Ben, je suis pas surprise de l'avoir bien performée. De là à se rendre en finale du US Open, dans son premier US Open, c'est quand même inespéré, inattendu, mais il faut que toutes les choses tournent bien. Il faut qu'elle garde la santé. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de très bonnes joueuses, de championnes dans sa section du tableau. Puis, elle n'avait pas besoin de les jouer parce que d'autres filles les avaient déjà battues. Exemple, ouais. Simona Halep. Exemple, Sloane Stephens, qui a gagné l'US Open il y a 2 ans. Alors, ça prend un petit peu de chance, un petit peu de santé, et puis un sens de l'opportunisme, mais aussi, bien sûr, du talent.
On la découvre, évidemment. On l'a vu jouer à Indian Wells. On la suit depuis ce temps-là. Tous les amateurs à l'écoute ce soir de mon émission ont regardé les matchs dans les derniers jours. Qu'est-ce qui fait la différence? Elle a dit hier après le match, « Je joue mieux quand je suis down. » Et là, down, évidemment, je veux traduire en temps réel pour les auditeurs. C'est pas quand elle est dépressive, c'est quand elle est down dans le pointage. Quand elle est en retard dans le pointage, c'est là qu'elle joue son meilleur tennis. Est-ce que, d'une part, vous allez me dire que ça démontre une force de caractère, mais est-ce qu'elle joue pas un peu avec le feu?
Écoute, c'est une réponse comme celle-là, c'est vraiment une réponse à une question précise. Hein? Exemple... comment ça se fait que tu joues si bien quand tu es en arrière dans le pointage?
Okay.
Alors, en principe, elle ne veut pas être dans cette situation-là.
Non, c'est ça.
C'est sûr, et elle ne fait pas exprès aussi, mais en même temps, la capacité de pouvoir élever son niveau de jeu ou de trouver des solutions lorsqu'on est un petit peu dans le pétrin, c'est vraiment un signe d'une future grande championne et d'une très bonne compétitrice. Et puis l'avantage qu'Andreescu a à comparer à d'autres,
oui,
c'est qu'elle a beaucoup d'options dans son jeu. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, si elle peut le voir, elle l'analyse durant le match, et puis elle a d'autres solutions, d'autres coups à essayer, d'autres stratégies à pouvoir mettre à fond pour essayer de tourner les choses. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait que cette année, elle a vraiment eu tellement un grand succès.
OK. Est-ce qu'elle a fait de frapper fort? Je trouve qu'elle frappe fort, à moins que vous me disiez que toutes les filles sur le circuit, le top 10 ou le top 15 mondial, tout le monde frappe fort, mais j'ai l'impression qu'elle a une puissance peut-être que d'autres filles n'ont pas. Est-ce que ça, c'est un avantage pour elle?
Ben, je ne suis pas sûre que c'est vrai, parce que toutes les joueuses frappent fort, en général. Avec la technologie de raquettes et de cordage qu'on a ces jours-ci, et puis que le fait que la plupart soient grandes et fortes et costaudes,
oui,
c'est vraiment généralement ce que la plupart des joueurs font.
Okay.
La différence avec Andreescu est la suivante. La première fois que je l'ai vu jouer, je pense qu'elle avait 14 ans, c'était dans les juniors de Roland-Garros. Elle avait le même genre de jeu qu'elle a maintenant. Elle faisait des slices, elle faisait des amortis, elle montait au filet. Elle faisait toutes sortes de choses que normalement les filles de 14 ou même de 34 ne font pas.
Okay.
Et puis après ça, elle s'est comme écartée un petit peu de ça et elle essayait de battre ses adversaires du fond du terrain. Puis j'ai pas aimé ce développement-là. Je me suis dit, oh non, est-ce qu'elle essaie de changer son jeu naturel? Mais en bout de ligne, ça a peut-être bien payé parce que maintenant, elle est capable non seulement de varier le jeu, mais aussi de rester en arrière et de frapper fort et de faire des coups gagnants de cette façon-là. Et puis c'est ça, la plupart des joueuses aiment le rythme. Ils aiment des filles qui frappent à plat, qui frappent fort, et puis ils font la même chose, et finalement, c'est celle qui fait l'erreur ou c'est le coup gagnant qui gagne. Alors, ils sont tellement déstabilisés par son jeu que puis ils ont pas les mêmes armes qu'elle a. Ils sont pas capables de gérer les amortis, des slices, de venir au filet, tout ça. Ils sont pas capables. Ils n'ont pas les armes pour les contrer. Alors, oui, elle frappe fort. Elle frappe une balle qui est pas nécessairement à plat. Toujours, elle est capable, mais une balle qui est un petit peu plus pesante, qui a un petit peu plus d'effet, qui remonte un petit peu plus haut pour que les filles ont de la misère à l'attaquer, mais point de vue puissance, je dirais que c'est pas son meilleur atout.
OK. Son amorti est quand même assez impressionnant. Est-ce que l'amorti, ça peut faire partie d'une certaine stratégie contre Serena ou pas du tout?
Écoute, ça va dépendre, hein, parce que pour pouvoir exécuter les changements de rythme comme elle fait, des slices ou des amortis, tout ça, ça devient de plus en plus difficile à le faire lorsque l'adversaire frappe fort. Et puis, il n'y en a pas beaucoup qui frappent plus fort que Serena. Hein. Et puis, si elle est comme reculée un petit peu à la ligne de fond, si elle doit gérer, défendre la puissance de Serena, ben là, c'est très difficile de créer. Puis, c'est un petit peu ça le problème qu'elle a eu au début contre Belinda Bencic hier soir, qui frappe très fort, très à plat, oui, très profond. Et puis, elle a la difficulté d'exécuter sa variété. Et puis, finalement, elle a ajusté, elle s'est habituée à la vitesse, elle a peut-être reculé juste un petit peu, et puis là, elle a pu se donner de l'espace. Mais Serena Williams et Belinda Bencic, point de vue puissance, point de vue explosivité, là, écoute, c'est un autre niveau, hein. On verra.
Oui. Dites-moi, évidemment, demain, on s'attend à ce que la foule supporte Serena plus que Bianca, mais est-ce que cette semaine, pour nous, c'est la nouvelle coqueluche au Canada, Bianca Andreescu, mais est-ce que vous avez senti sur place à New York que le public l'avait adoptée?
Écoute, c'était peut-être pas le tournoi pour faire ça, parce que normalement, c'est un petit peu difficile d'avoir plus qu'une coqueluche par tournoi. Et ici, au US Open, cette année, c'était Coco Gauff, l'Américaine, qui n'a que 15 ans,
oui,
qui a quand même fait assez bonne fureur. Alors, durant les premiers tours, Andreescu, sur les plus petits terrains annexes, avait beaucoup de sport, il y avait beaucoup de Canadiens. Et même, dans le premier tour, elle a joué une jeune Américaine qui n'était pas vraiment connue, là, mais quand même, écoute, la majorité de la foule était pour Andreescu.
Okay.
Donc, c'est le fun. Mais quand elle a joué Taylor Townsend, il y a deux tours, une Américaine, sur le Arthur Ashe Stadium, la foule était toute pour Townsend. Et puis, Townsend, c'est pas une grosse vedette, là. Alors, je pense que demain, elle va avoir quelques Canadiens, elle va avoir quelques partisans de New York qui aiment prendre pour le underdog, mais à part de ça, écoute, ça va être Serena. Hein?
Ben oui.
Il va falloir qu'elle compose avec ça, ben c'est
oui,
normal.
Ben oui, c'est normal. Dites-moi, Stéphanie, vous suivez le tennis depuis longtemps. Après Indian Wells, j'ai trouvé, évidemment, moi, j'étais un simple observateur à distance, là, j'ai trouvé que, parce qu'à Indian Wells, en finale, Bianca avait tellement l'air de souffrir qu'on avait mal pour elle dans le salon en regardant le match. Quand ensuite, elle s'est présentée sur le court à Miami, on a dit « Caroline est revenue vite ». Est-ce que vous pensez qu'après le US Open, elle va prendre une pause, sans dire une longue pause, mais quelques semaines de pause?
Bien, c'est difficile à dire. Hein. Je pense qu'ils ont appris des leçons, point de vue horaire. Et puis, je parlais à Lindsay Davenport, une ancienne numéro 1, il y a quelques jours, et puis elle disait que la plupart des joueuses se seraient même pas présentées à Miami. Mais
dans son cas,
c'est par... ses parents étaient déjà rendus là, et puis écoute, elle était sur une lancée, elle voulait jouer, mais elle avait déjà mal à l'épaule. Je pense que l'erreur qu'ils ont fait, c'est d'essayer pour un retour à Roland-Garros. Elle est arrivée à la fin du mois de mai, pas de préparation, pas de tournoi préparatoire, l'épaule allait, tenait, sauf qu'elle ne l'avait pas vraiment testé. Et puis elle a réalisé assez vite que non, c'était pas correct. Et puis, elle a manqué Wimbledon, elle a manqué la saison de gazon au complet, elle a manqué tout avant la Coupe Rogers, mais je pense qu'ils ont vraiment, s'assuré que l'épaule était en bonne forme. Et aussi, ils ont engagé un physio à temps plein pour voyager avec elle après Roland-Garros. Alors, et puis, l'avantage du US Open, c'est que, mis à part hier soir, il y avait toujours une journée de congé entre les matchs. Donc, la récup, les soins, tout ça, les traitements, on a pu faire ça, et puis je pense qu'elle s'en est bien sortie. Mais pour la suite, elle a trois tournois de prévus en Asie, au Japon, puis ensuite deux gros tournois, Wuhan et Beijing, qui sont de l'envergure de Indian Wells, Toronto, etc.
Okay.
Et puis moi, je dirais que Japon, je pense qu'on va oublier ça, là. Mais le problème aussi qui arrive, qu'il faut bien gérer, c'est que lorsque tu arrives dans le top 10 comme ça, là, tout à coup, les tournois, là, ils commencent à appeler l'agent et disent hey, écoute, on va te passer un petit chèque pour venir jouer ici, mais donc, et puis c'est très tentant d'essayer de maximiser. Alors, j'espère qu'ils vont vraiment garder ça à long terme et qu'ils ont appris des leçons de plus tôt cette année.
OK. Si Bianca s'incline demain, elle va être 8e au monde. Si elle gagne, elle va être 5e. Le parallèle qu'on a, évidemment, c'est le parallèle avec Eugénie Bouchard qui, en 2014, a fait deux demi-finales et une finale de tournoi de Grand Chelem. Stéphanie, je me fie à vous, évidemment, parce que moi, je suis un simple observateur. Dans quelle mesure vous pouvez convaincre les amateurs de tennis à l'écoute ce soir que ça va être différent avec Bianca versus Eugénie?
Ben, je pense que ce quand si le monde ont déjà leurs idées de fait, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Hein? Écoute, on est tous sur Twitter. ça, oublie ça. Mais je dirais que la comparaison est vraiment assez injuste de deux façons. D'un côté, c'est vraiment injuste envers Bouchard de se faire comparer à Andreescu parce que c'est comme si ça rabaisse ce qu'elle a fait en 2014, qui était quand même extraordinaire.
C'était très bien, mais
c'était vraiment extraordinaire. Ouais. Mais en passant aussi, elle a bénéficié du même genre de, comme on dit, de draw luck. Parce que en deux occasions, en Australie et puis à Wimbledon, au moins, peut-être même à Roland-Garros, était due pour jouer Serena Williams plutôt dans le tournoi. Quelqu'un avait battu Serena, puis elle a battu la fille qui a battu Serena. Donc ça prend ça.
Okay.
Mais alors de ce côté-là, c'était juste pour Bouchard. Mais en même temps, et puis on ne sait pas encore si Andreescu va s'emporter avec la notoriété et tout ce qu'elle va gagner si jamais elle gagne le US Open. On ne sait pas. Il est trop tôt. Elle a juste 19 ans.
Ouais.
Elle n'a jamais vécu ça. Ses parents n'ont jamais vécu ça. Personne n'a vécu ça. Ça reste à voir.
Okay.
Mais en même temps, Andreescu est une joueuse plus complète, à un plus jeune âge que Bouchard, qui avait des capacités, elle faisait certaines choses très bien, mais ça demandait une confiance totale pour exécuter son jeu. Donc, quand la confiance a commencé à baisser, le jeu aussi. Et Andreescu, c'est pas le même genre de joueur, de joueuse. Alors, on s'attend que non, c'est pas quelque chose qui va durer juste une année, mais écoute, avec du recul, on peut dire n'importe quoi, hein.
Est-ce que les gens qui sont autour de Bianca vont peut-être avoir appris, c'est évidemment, c'est pas les mêmes parents, mais ça peut être Tennis Canada, ça peut être les entraîneurs, ça peut être les physios, peu importe. Est-ce qu'il y a des gens dans l'entourage qui vont peut-être avoir appris des derniers déboires d'Eugénie?
Ben, je pense que Bouchard, en général, a été très mal entouré.
Okay.
Donc, ça aide pas en partant. Sauf que tu peux avoir le meilleur entourage au monde et puis finalement, c'est à la joueuse de gérer, d'évoluer et de vivre sa vie. Hein. Alors, tu peux donner les meilleurs conseils sur la planète puis si la joueuse n'écoute pas, ça donne absolument rien. Donc, ça reste à voir, mais c'est vraiment deux personnes qui sont tellement différentes l'une de l'autre et puis les circonstances sont tellement différentes que je vois pas une reprise. Mais comme je dis, c'est un petit peu injuste que Bouchard, la comparaison va être comme sans arrêt maintenant avec elle, surtout que vraiment elle n'arrache, puis que cet automne elle redescend au niveau ITF pour jouer des petits tournois. Hein. Puis je pense que ça va être vraiment, déjà en partant qu'elles se sont jouées au mois de janvier, puis qu'elles se sont jouées encore à Toronto, puis que Bouchard a perdu les deux fois, là. Je pense qu'à un moment donné, si elle joue ça bien dans les médias, elle pourrait vraiment être un personnage un peu plus sympathique. Elle n'a pas choisi cette route-là, mais elle pourrait, parce qu'à un moment donné, il faut avoir la sympathie pour quelqu'un que ça fait 5 ans que ça dure, et puis que là, maintenant, il y a une petite jeune qui arrive, puis qui prend toute la place,
ouais,
puis qui a des grands succès, et puis qu'on mentionne encore son nom, mais pas en bien.
Je comprends très bien. Un gros merci à Stéphanie Maïs de nous avoir parlé. On invite les auditeurs à l'écoute à vous suivre sur un site qui est très bien fait, tennis.life, L-I-F-A. Un gros merci à vous.
Ah, ça fait plaisir.
Bonne soirée. Stéphanie Miles, une experte dans le monde du tennis, elle-même ancienne joueuse, qui est au US Open. Elle suit en direct ce tournoi majeur. 4e et dernier tournoi majeur. Je vous rappelle, la finale de demain, c'est à 16h. 16h demain. Bianca Andreescu contre Serena Williams. La gagnante fait 3,8 millions de dollars américains. La perdante, 1,9 millions. Si Bianca remporte le tournoi, elle va être classée 5e au monde lundi. Si elle s'incline, elle va être 8e au monde. Évidemment, c'est une première finale en carrière lors d'un tournoi du Grand Chelem pour Bianca Andreescu qui n'a que 19 ans. Son opposante, Serena Williams, 23 triomphes en tournoi majeur. Le record est de 24, ça appartient à Margaret Court. Serena n'a pas gagné depuis l'Australie en 2017 un tournoi majeur. Serena Williams compte 6 conquêtes du US Open en carrière. Et la première fois qu'elle a gagné à New York, c'est en 1999 à l'âge de 17 ans. Elle a maintenant 37 ans. Et Bianca Andreescu n'était pas encore au monde.
FM 93.
L'avant-match. De retour après la pause. En semaine, écoutez les amateurs de sport avec Mario Langlois et ses collaborateurs, une présentation de Boston Pizza. Amateurs de bons moments, rassemblez-vous en famille ou entre amis chez Boston Pizza pour ne rien manquer de l'action. Boston Pizza, c'est bon d'être ensemble.
Bonjour, bienvenue au Volksfest.
Ce VUS-là, là, c'est bien la classe?
Exact. Avec traction intégrale 4Motion, et vous pouvez obtenir jusqu'à 4 000 $ de remise en argent.
Ben voyons donc. Oh.
Ben oui, puis on peut asseoir 7 adultes confortablement.
C'est pas vrai?
Ben oui.
Ça fait mon affaire parce que j'ai une grosse famille, moi.
Le véhicule que vous vouliez est en vente et ça, c'est une de bonnes nouvelles. Volksfest prend fin le 30 septembre. Visitez vw.ca pour les détails.
Volkswagen.
Vous cherchez un emploi? Le ministère des Transports recherche des techniciens en aéronautique, conducteurs de machinerie lourde, copilotes d'avions et d'hélicoptères, évaluateurs agréés, arpenteurs géomètres, mécaniciens et plus encore.
Avec plus de 6 500 emplois stimulants et remplis de défis répartis partout au Québec, il y a fort à parier que vous trouverez le poste qui vous convient. Pour postuler, consultez la section emploi au www.transport.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Est-ce que c'est une révolution? Est-ce qu'on va se faire battre? Est-ce qu'on va dominer? Une grande bataille, toute une guerre. Le présent et le futur de la boxe. Soyez là le 25 octobre au complexe Capital Hélicoptère. Vincent Thibault, Lexon Mathieu, Clovis Drolet, Avery Martin Duval, Sadreddine Akhmedov, champion du monde jeunesse WBC et Artem Oganesian, champion du monde jeunesse WBO. Un minimum de 8 combats. Un gala à ne pas manquer. Achetez vos billets maintenant sur lepointdevente.com. Collaboration FM 93.
Il fallait partir le feu de camp. Il restait juste une allumette. Il a commencé à pleuvoir.
Ça, c'est juste 60% de l'histoire. Parce que Sale offre jusqu'à 60% de rabais sur certains articles et seulement ce samedi jusqu'à 500 $ de rabais aux 250 premiers clients dans chaque magasin. Toute bonne histoire commence chez Sale.
Vous recevez des traitements pour de l'urticaire qui vous incommode depuis au moins 6 mois? Si les symptômes persistent et que vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pourriez être admissible à une étude clinique avec un médicament expérimental. L'équipe de la clinique spécialisée en allergies de la capitale se fera un plaisir de répondre à vos questions et d'évaluer votre participation à ce projet dirigé par les docteurs Rémi Gagnon, Jacques Hébert et Jean-Philippe Drolet. Vous pouvez nous joindre au 418-659-7741, poste 234 ou au www.csacqc.ca.
FM 93, promo. Le 93 pourrait faire de vous un gagnant.
On commence notre saison des remparts comme il faut, dans une loge du Centre Vidéotron. Inscrivez-vous sur fm93.com pour gagner un des 10 billets dans une loge pour voir les remparts face au Husky de Rouyn-Noranda le 27 septembre.
Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner. L'avant-match. C'est le sport local, provincial, national, international, interplanétaire. Sous toutes ses facettes.
On est de retour dans l'avant-match. Un gros merci d'être à l'écoute. Vous savez, plusieurs collaborateurs au fil des ans m'ont aidé à rendre cette émission encore plus intéressante. Et j'ai reçu des courriels cette semaine concernant Simon Gagné et Louis-Jean, à qui je n'ai toujours pas parlé depuis le retour de l'avant-match. Ben, ça débute la semaine prochaine. C'est juste qu'on attendait que le camp d'entraînement du Canadien débute, étant donné que Louis et Simon ont des chroniques un peu plus hockey, si vous me permettez l'expression. Ben, lundi, ce sera Louis-Jean et mercredi prochain, Simon Gagné. Déjà, on parle sur une base régulière avec François Paquette et Éric Lavigne et Esteban qui sera mon prochain invité. J'attire votre attention sur la chronique d'hier avec Éric Lavigne qui a encore beaucoup fait réagir. Donc, les gens qui ont manqué ça, c'est possible pour vous d'aller réécouter sur fm93.com dans l'onglet des émissions. Vous faites l'avant-match avec la date d'hier. Vous allez pouvoir réécouter Éric Lavigne qui, encore une fois, j'allais dire n'a pas été tendre, mais c'est pas la bonne expression. Encore une fois, a été right to the point, exactement dans la cible concernant le hockey mineur. Et je pense que si vous êtes un parent d'un jeune joueur ou d'une jeune joueuse qui joue au hockey, vous allez apprécier ce segment d'émission d'hier avec Éric Lavigne. On est rendu au Babillard sportif avec le chum Esteban. Salut Esteban!
Salut mon Dan!
Comment vas-tu?
Ça va toi? C'est pour ça que Louis-Jean et Simon Gagné parlent d'hockey. J'ai des nouvelles de baseball et de football.
Ouais, ça c'est ton créneau ça! C'est bon!
Ah, c'est ça!
Hey, là, hey, attends. Ouais, avant que tu me racontes tes histoires, parce que je sais que tu fouilles toute la semaine pour nous autres, puis je l'apprécie bien gros, il faut que je te dise que dans notre émission de mercredi, on a fait une émission spéciale, Will et moi, sur la NFL. J'ai posé une question sur les Vikings, parce que je sais que t'es un grand fan des Vikings. Puis il y a deux ans, les Vikings étaient à un match de participer au Super Bowl, puis il me semble que depuis ce temps-là, j'en entends pas beaucoup parler. Je te dirais pas ce que Will...
J'oublie de les surveiller. De les surveiller, on va dire.
Dire, je te dirais pas ce que Will a répondu, mais je vais te le dire. Lui est déçu de la signature de Kirk Cousins, puis il est parfaitement conscient que c'est vrai que les Vikings étaient pas très loin, mais il dit, ils ont l'air de s'éloigner un peu. Est-ce que toi, t'es confiant pour la prochaine saison ou pas en tout?
J'ai le même constat que lui, malheureusement. J'étais content de la signature de Cousins, mais il m'a déçu l'année passée et j'espère juste qu'il va rebondir.
OK. On souhaite que le carrière redevienne un carrière de premier plan à la hauteur de son salaire.
Oui, en plaisir.
OK, parfait.
Je voulais te parler de quelque chose qui est arrivé au baseball, que c'est jamais arrivé depuis 1921.
Ben voyons.
Michael Lorenzen, l'enfant, et pas avec n'importe qui, tu vas voir avec qui c'est arrivé en 1921. Michael Lorenzen est rentré dans le match en septième manche, lancé pour les Reds de Cincinnati, a terminé le match au champ centre et a même frappé un circuit pendant le match.
Oh, une version hybride.
Et le dernier à avoir fait l'exploit était Babe Ruth.
OK, une version hybride, un peu comme Shohei Ohtani avec les Angels.
Oui, puis même, je te dirais, il y a un dénommé Mickey que les Rays ont repêché récemment. On me dit que c'est tout un athlète. Le gars jouait à Louisville et peut facilement jouer. On me dit premier but, frappeur de puissance. Mais il est lanceur gaucher de mémoire. Et Colin... je pense qu'on va en avoir de plus en plus. Je te dis pas que ça va faire... je pense qu'il va en avoir de temps en temps des athlètes qui vont lancer au baseball.
Oui, t'as raison. Alors que pendant plusieurs années, on a dit aux lanceurs, vous allez juste lancer. Puis même que le règlement dans la Ligue nationale les envoie au bâton pour se faire retirer au bâton, mais dans la Ligue américaine, ils vont même pas. Fait que...
En plein ça. Okay. Puis je pense que les Rays contribuent à ça parce que les Rays, entre autres, essayent plusieurs choses. L'autre jour, j'ai vu une substitution de lanceur. Le gars s'est ramassé au premier but, il est revenu pour l'autre frappeur, question d'avoir un lanceur gaucher contre un droitier, etc.
Ah, okay.
C'est des choses qu'on voyait pas avant.
OK, c'est vrai. Intéressant.
Je vais te parler également, tout simplement, là, un dénommé Uriel, là, Padron Acilés, là, un prospect des Red Sox.
Un gars de Trois-Rivières?
C'est important.
Un gars de Trois-Rivières ou Trois-Rivières-Ouest?
Un gars de Saint-Sauveur à Québec.
OK, parfait.
Et le gars a quand même fait 12 retraits au bâton de suite dans un match des séries hier. Là. C'est,
wow.
Tu me dis, c'est du A là, A fort, mais 12 retraits consécutifs.
Mais on ne diminuera pas le calibre de A fort que tu joues dans la Ligue du Bas-Saint-Laurent, que tu joues Bantam A ici à Québec, ou l'exemple de ton gars qui joue dans le A fort. 12 frappeurs de suite que tu retires sur des prises, c'est exceptionnel.
Ça doit être détaillement pour l'équipe l'autre bord. Hein. T'sais, OK, ouais, mon Dan, ça va bien. Un autre.
mais le problème, c'est que le gars, le 13e, qui se fait pas retirer sur des prises, il fait un roulant ou deux, puis il est quasiment content d'avoir fait un roulant ou deux.
Oui, puis tu sais, imagine-toi qu'il y en a trois, à 12 retraits, il y en a trois qui se sont fait retirer deux fois.
Oui, ah ouais, ça c'est moins hot un peu, là. Ouais.
Je voulais également te parler hier, t'as peut-être regardé le match de football, là, ça n'a pas vraiment retenu l'attention au niveau des jeux offensifs
non,
et tout.
Dis-toi, ouais.
Mais il en est arrivé une drôle. Probablement le preneur de son, et là je vais traduire très poliment comment il l'a dit. C'est évidemment pas comme ça qu'il l'a dit. Puis s'il y en a des auditeurs qui veulent iront voir mon Twitter, j'ai partagé ça ce matin.
Okay.
Le gars est en train de jaser avec son chum, il prend le son puis il y a comme un blanc sur un punt, il reste 2 minutes 13 au deuxième quart, et on l'entend dire au gars d'à côté, et là, les deux partent à rire par la suite. Il a dit quelque chose comme « on ne m'a jamais vérifié la prostate ». Je vais le dire comme ça, là.
Hey.
Mais c'était autre chose en anglais, disons, et il y a surtout personne qui a parlé pendant le botté de dégagement, alors tout le monde l'a entendu.
Malaise total.
Complètement. Pas besoin de te dire que l'annonceur, là, le commentateur n'a pas... on n'a pas rajouté. Là.
Non, là, ça, c'est le genre de situation que tu commandes pas, hein?
Non, puis là, tu dis, on passe une pause, là, tu dois faire signe au gars de la mise en onde, hein? Il me semble que tu dois avoir honte que ça finisse. Là.
Exact. Hey, gros merci, Esteban. Bon week-end à toi.
Salut, mon Dan.
Salut, bon bien. Week-end. Esteban Arguelegui, notre chum avec le babillard sportif dans l'avant-match le vendredi. Un gros merci d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle qu'en fin de semaine, ben c'est Bianca Andreescu. On en a parlé en début d'émission avec Stephanie Miles. Bianca Andreescu qui va affronter demain, 16h, Serena Williams en finale du US Open. C'est une ascension fulgurante. C'est impressionnant. Tout le monde est en admiration avec cette jeune fille de 19 ans qui était 173e au monde. quand l'année dernière, on a mis un terme à la saison et qu'on a fait le classement final. Et lundi, au nouveau classement, elle va être 8e si elle perd demain, puis 5e si elle gagne. 5e, c'est le plus haut rang qui a réussi à atteindre Eugénie Bouchard en 2014 pour les gens qui l'avaient déjà oublié. C'est le dernier match hors concours des Remparts ce soir à Drummondville et je veux saluer tous les intervenants de la Ligue d'hockey Midget 3 parce que la saison débute ce soir. Il y a un match à Lévis d'ailleurs ce soir. Les Chevaliers qui réintègrent leur aréna parce qu'il y avait eu des rénovations l'année dernière. Ils ont joué à Charny. Dommage, hein? L'année où ils ont la meilleure saison de leur histoire, 41 victoires sur 42 matchs, sont obligés de jouer dans un autre aréna. Mais c'est Éric Bélanger, l'ancien de la LNH, à qui on a parlé quelques fois dans l'avant-match. Ben, c'est lui qui est le nouvel entraîneur-chef des Chevaliers. Donc, eux débutent ce soir. Et pour le Blizzard, ce sera demain après-midi, 13h, à Saint-Augustin avec la visite de Trois-Rivières. C'est tout pour l'avant-match de ce soir. Passez donc une belle fin de semaine.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93. Ça me parle.
Des pieds fatigués, ils en ont vu en 40 ans. Chez les orthésistes du pied de Québec, profitez de cette expérience. Les orthésistes du pied de Québec, 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Solaris Québec, porte et fenêtre.
Sylvain, ils payent les taxes.
Oui, oui, les taxes.
Sylvain, Solaris paye les taxes.
Hey, les taxes sur des portes et fenêtres, ça, c'est beaucoup d'argent.
Oui, oui, avec 2000 $ d'achat avec l'installation, Solaris paye l'équivalent des deux taxes ou encore offre le financement 48 mois, sans frais, sans intérêt avec Accordé des Jardins.
Les gens vont tous sauter là-dessus, puis ils vont vouloir avoir les nouvelles portes et fenêtres avant l'hiver.
Ils ont juste à aller chez Solaris d'ici le 21 septembre.
Solaris Québec, portes et fenêtres.
Au 710 rue Bouvier.
Changer un chauffe-eau soi-même, ça peut être compliqué. Heureusement, chez Hydro-Solutions, c'est notre métier, puis on aime ça pour vrai. Avec une location de chauffe-eau à partir de seulement $9,49 par mois, nos experts se chargeront de vous faire la livraison et l'installation sans frais. Ils se feront même un plaisir de repartir avec votre vieux chauffe-eau. Pour profiter de l'offre, appelez Hydro-Solutions au 418-353-0077 avant le 30 septembre. Hydro-Solutions, on livre, on installe, on récupère avec les experts de Boucher-Lortie. Certaines conditions s'appliquent.
Dans 800 mètres, mettez
la route sur pause dans un des 41 villages relais du Québec pour vous reposer, pour vous ravitailler ou juste pour vous dégourdir les jambes avant de
reprendre votre itinéraire.
Un message du gouvernement du Québec.
La vitre de votre iPhone est cassée. Votre sel marche plus? Passez chez Télution. Ils changent les vitres, batteries, connecteurs, souvent en 15 minutes et ils ont maintenant une section de cellulaires usagés. Télution sur Saint-Sacrement, Saint-Jean, à Saint-Romuald et maintenant à Charlebourg. Télution.com.
Doyon Després a demandé à Philippe comment il se sentait après l'achat de son barbecue.
Je renais de mes cendres, tel un phénix, et j'accomplis des merveilles, des chefs-d'œuvre, des miracles.
Doyon Després vous équipe comme un pro, que vous soyez chef ou pas.
Veuillez-vous venir les vagues. Préparez-vous.
Parce que c'est les vagues de $500 du FM 93.
Cet été, faites un achat chez l'un des commerces participants, tels que GL Sport, le Tuscanos et Caravane Marco.
Ensuite, envoyez-nous votre facture sur fm93.com et vous pourriez gagner l'une des cartes prépayées de $500.
Pour connaître les commerces participants, visitez notre site web ou textez été au 25226.
Surfez sur les vagues de $500.
Du FM 93.